Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, il fait un temps pourri, il fait froid et vous n'avez pas reçu de calendrier de l'Avent avec du chocolat, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles. Hein, les invités sont au courant, ils savent que j'ai trois bonnes nouvelles.
Toujours.
C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle, parce qu'on va vous donner toutes les clés sans exception, écoutez bien, hein, pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine, ce qui va se passer la semaine prochaine et les semaines suivantes sur l'économie, la finance et les placements. Au sommaire aujourd'hui, un mot, bah évidemment, hein, retraite. Une question, a-t-on besoin de la croissance chinoise en 2023 pour éviter une récession? Un chiffre, 10%, c'est le taux d'inflation en novembre dans la zone euro. Et en deuxième partie d'émission, où vont les marchés, tout simplement. Voilà, ça c'est simple au moins. La question d'argent, quels sont les meilleurs placements? On a parlé retraite, ben, il faut parler de placement pour préparer sa retraite. Les mots de la semaine de notre Jedi, les top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, et celle-là est vraiment exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. C'est un des chouchous de la communauté BFM Business, l'homme qui a des références historiques de plus en plus pointues. Ça devient de plus en plus dur de vous suivre. Hein. Le Alain Decaux de l'économie.
Et vous Wilfried faites de plus Galland. En plus d'efforts et ça, c'est formidable.
Wilfried Galland, vous êtes directeur et stratégiste chez Montpensier Finance.
Exactement, bravo Marc.
Bah oui, hein, on me l'a dit. Hein.
Le gendre idéal.
Il s'est résigné et c'est douloureux, il n'y aura plus de roi en France. Il a donc décidé de conquérir de nouveaux territoires pour en faire son royaume. Le roi du cloud, Louis de Montalembert, président de Pléiade AM. Vous pouvez expliquer pourquoi je dis que vous êtes le roi du cloud?
Mais vous savez que c'est une date napoléonienne aujourd'hui.
Oui, bah évidemment.
Parce que je gère un fonds sur le cloud, sur les entreprises du cloud B2B et un second que je conseille qui est géré chez Montpensier. Sur les leaders du cloud.
Donc on peut dire que vous êtes le roi du cloud.
Absolument, je suis en train de construire ce royaume.
Excellente société de gestion.
L'intensité de son bronzage varie en fonction de l'évolution du cours des small caps. Et je peux vous dire une chose, il a repris des couleurs depuis deux mois, le grand spécialiste des valeurs moyennes, Eric Lewin. Ah, ça y est, c'est le sourire.
Non, je suis pas du tout bronzé.
Non, mais c'est le sourire.
C'est une catastrophe, je suis plus du tout bronzé, je peux plus partir en vacances.
Rédacteur en chef des publications Agora, c'est le sourire là.
Non, CAC Small, moins 20% depuis le début de l'année, non, pas du tout.
Non, mais ça remonte quand même.
Ça remonte à bon. Les marchés actions, oui, du côté des big, c'est très bien, du côté des small, il y a de l'effort à faire quand même encore.
On ne rattrape pas du tout.
Hein. Il y a 25 points d'écart entre les deux sur 5 ans.
Je ne sais pas ce qui me retient de m'inscrire en économie à la Sorbonne pour enfin comprendre de quoi je parle. Il serait temps peut-être. La peur d'être ridicule peut-être. Anne-Sophie Alsif, vous êtes chef économiste de BDO France et professeure d'économie à la Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue.
Merci.
Et on démarre tout de suite avec le mot de la semaine. C'est vraiment le mot de la semaine. Hein. Les retraites.
Dans son vieux par-dessus râpé.
J'ai essayé de trouver un truc qui parle à Wilfried Galland qui connaît pas bien le rap et les chansons récentes. Donc j'ai trouvé Daniel Richard, ça vous va ça?
Ah, c'est parfait pour l'archéologie, c'est impeccable.
C'est reparti, on reparle à nouveau réforme des retraites. Enfin, j'ai envie de dire, on évoque un report de l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Alors il faut savoir que la retraite, évidemment, c'est une de vos préoccupations majeures. C'est pour ça qu'on en parle dans C'est votre argent, parce que c'est une des raisons pour lesquelles le taux d'épargne est aussi élevé. Alors, est-ce qu'on a besoin, Sophie, d'une réforme des retraites? Est-ce qu'on a une chance qu'elle aboutisse?
Alors, besoin, ça c'est vrai que c'est une appréciation. Quand on regarde vraiment les chiffres, c'est sûr qu'à moyen, en tout cas à court terme, on n'a pas un besoin parce qu'il n'y a pas de problème dans le système de financement. Par contre, à moyen long terme, et c'est un peu tout le débat sur cette réforme, c'est dégager des marges de manœuvre et dégager des financements pour financer aussi d'autres choses et notamment d'autres transitions. Et bien sûr, on pense à la transition écologique. L'idée aussi, c'est d'avoir un impact sur le taux d'emploi des seniors, hein, qui est assez faible en France par rapport aux autres pays européens. Et c'est vrai qu'on voit que lorsque l'on augmente l'âge de départ, eh bien, mécaniquement, on a un décalage. Donc, là aussi, pour le gouvernement qui a un objectif de plein emploi à 5 ans, ça peut être un moyen d'augmenter, hein, ce taux de chômage des seniors, essayer de le combattre pour avoir en effet plus d'activités qui soient créées et essayer d'aller vers les 5%, puisque aujourd'hui, on est plutôt à 7,5% de chômage, donc on est encore très loin du plein emploi.
Et quand vous dites à court terme, ça m'étonne, quand vous dites à court terme, il n'y a pas de sujet.
À court terme,
moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait quand même un sacré déséquilibre entre le nombre d'actifs et d'inactifs. que ce déséquilibre est en train de s'accroître et qu'en plus la durée de vie à la retraite, bon, je rappelle quand même que l'âge de la retraite a été fixé à l'espérance de vie de l'époque et aujourd'hui on a 20 à 25 ans de durée de vie à la retraite.
Tout donc, à fait, c'est pour ça qu'il y a le débat de dire, étant donné qu'on vit plus longtemps, bah oui. Il faut augmenter l'âge comme on fait les voisins européens. Après, moi c'est vrai que je suis toujours un peu gênée dans ce débat en France parce qu'on se focalise beaucoup sur l'âge de départ. Déjà l'âge effectif de départ c'est 64 ans, c'est pas 62 ans. Et quand vous regardez dans les études, à mon sens, ce qui est beaucoup plus important c'est vous partez à combien. C'est votre revenu à la retraite qui conditionne votre départ. Donc c'est vrai que très souvent on se focalise sur les 62 ans, mais en général voilà, les gens ne partent pas à cet âge-là et quand ils veulent partir à cet âge-là, ils n'ont pas forcément toute leur retraite. Donc la question c'est le financement et quelle part de revenus du PIB on décide d'octroyer aux retraites. Et donc à très court terme, on voit qu'on a la part des retraites dans le PIB reste assez stable finalement. Et la question c'est est-ce qu'on aura un décroissement avec l'inflation plus important par rapport aux actifs. Donc ça veut dire peut-être revoir le mode de financement. Et là en effet les débats sont ouverts. Ou on reste dans cette situation à court terme où en effet on n'a pas forcément de problème de financement. C'est-à-dire que les gens vont continuer d'avoir leur pension. Mais par contre à moyen long terme, eh bien c'est des marges de manœuvre budgétaires qu'on n'a pas pour autre chose. Donc ça dépend en effet comment on le voit, mais c'est vrai que là aussi au niveau européen, c'était une réforme qui avait été très vendue par le gouvernement en disant voilà, ce sera la réforme.
C'était très attendu. Hein.
Très attendu, notamment concernant la soutenabilité de nos finances publiques, ça avec l'assurance chômage. Et je pense qu'il y a aussi pour le gouvernement, de fait, l'idée de mettre en place cette réforme, même si elle est à minima, puisque...
Elle est à minima.
Par rapport aux ambitions qui étaient la première version, on va dire oui, mais en tout cas, ça permet quand même de ressortir par le haut et de dire on a fait une réforme des retraites.
Oui, Fried, on va y arriver ?
Moi, je pense qu'on va y arriver parce que déjà, c'est autant, et je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est autant politique qu'économique, la réforme des retraites. Le signal politique est extrêmement important. Une réforme des retraites, c'est un peu le Grand Prix de l'Arc de Triomphe pour les gouvernements. C'est réussir sa réforme des retraites, c'est être sûr de marquer l'histoire. Et quand on s'expose autant que l'a fait Emmanuel Macron dans sa campagne en agitant le chiffon des 65 ans, c'est-à-dire de facto, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est revenir sur le mitterrandisme, c'est-à-dire en fait effacer les grandes réformes de 81, c'est quelque chose qui est un signal, et le signal politique, et c'est là où on rejoint l'économie, c'est le signal politique sur le travail. C'est le signal politique de dire il faut travailler plus. Et on sait que économiquement en France, on n'a pas du tout de sujet sur la productivité des actifs. Ça, on n'a pas de sujet.
Sujet de temps de travail.
On n'a pas de sujet sur le temps de travail des actifs qui ont un emploi. Ça, c'est pas un problème. Au contraire, même. En revanche, on a un problème de volume de travail général dans l'économie. Et repousser l'âge de la retraite, c'est dire à un des paramètres, c'est effectivement de faire travailler les gens plus longtemps. Et donc, repousser les curseurs, c'est être capable de dire l'aspiration à la rente que vous pouvez peut-être légitimement avoir en disant la retraite, c'est finalement la rente pour tous, cette espèce d'aspiration du français du 19e siècle qu'on a toujours eu en France. Eh bien ça, c'est progressivement en train de changer. Il va falloir, pour maintenir notre niveau de vie, travailler plus. Et donc, à côté de la réforme, par exemple, de l'assurance chômage, à côté de la réforme de l'apprentissage, le troisième volet, c'est effectivement dire il faut avoir cette espèce de push sur la partie senior. C'est un peu plus compliqué, probablement, que juste agiter une mesure d'âge, mais au minimum, on est en train de le faire.
Juste pour réagir rapidement, une rente, il faut faire attention parce que les salariés ont quand même cotisé toute leur vie, donc on n'est pas dans un système de rente.
Mais c'est un système, en fait, c'est un état d'esprit.
Il faut faire aussi attention de la manière dont on le présente parce que c'est un peu, on permettra aux gens qui veulent de travailler plus. Le problème, c'est que beaucoup de seniors de plus de 55 ans veulent travailler plus, mais ils ne sont pas embauchés par les entreprises.
Donc ça aussi, Louis de Montalembert.
Moi, je trouve qu'il y a une absurdité dans ce débat. C'est que finalement, évidemment, qu'il faut allonger le temps de travail. Quand on a lancé la retraite en 46, il y avait 26 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est peut-être à 2 cotisants et demi pour un retraité. Mais 3. Cette espèce de totem de l'âge de départ à la retraite me paraît totalement absurde. En fait, c'est le nombre de trimestres, c'est le nombre d'annuités qui compte. Et finalement, on est en train de dresser ce totem qui ne règle aucun problème. C'est véritablement le nombre d'années de cotisation.
Ça en règle quand même un peu.
Oui, mais c'est totalement inégalitaire si vous avez des gens qui ont commencé à...
Oui, mais évidemment, mais de toute façon, il y a pas mal d'aménagements qui sont prévus quand même.
Pourquoi ne pas juste se focaliser sur le nombre d'annuités? Le nombre d'annuités est ce qui devrait régler le problème de manière substantielle. Et il sera nécessaire.
Éric Lewin.
Moi, je pense qu'il faut vraiment vraiment faire cette réforme des retraites. On est quand même le pays au monde où on reste le plus longtemps à la retraite. En Corée du Sud, c'est 12 ans. Aux États-Unis, c'est 18 ans. Nous, on reste en moyenne 25 ans. Après, il y a un gros problème sur l'emploi des seniors. Je regardais les statistiques. Il y a 56% des seniors entre 55 et 64 ans. C'est-à-dire notre tranche d'âge, Marc, qui travaille. Et sinon, la moyenne européenne est à 61% et en Allemagne, on est à 71%. Et la grande problématique, c'est pourquoi les chômeurs ne travaillent pas. C'est pourquoi les seniors ne travaillent pas. C'est sûr qu'on n'a pas envie de les employer, mais il y a quand même une durée d'indemnisation du chômage qui est hallucinante. Pour notre part, nous, si on est viré demain, on a 3 ans d'indemnité de chômage. Donc il faudrait aussi peut-être changer toutes ces pistes pour faire en sorte que les seniors soient intégrés dans les sociétés, quitte à ce qu'il y ait des exonérations fiscales, mais aussi faire en sorte peut-être diminuer cette durée d'indemnisation du chômage qui incite les gens finalement à être 3 ans au chômage, puis après en pré-retraite.
Et quand on dit, Anne-Sophie, que les Français, en fait, il n'y a pas de système de capitalisation, enfin, moi je ne suis pas du tout d'accord en France, parce que, en fait, finalement, on est dans un système de retraite par répartition, mais les Français eux-mêmes n'arrêtent pas d'épargner. On a créé des produits, l'assurance vie, c'est
l'immobilier surtout.
L'immobilier, l'assurance vie, maintenant le PER. Est-ce que finalement, c'est pas nos fonds de pension à nous, quoi ?
Complètement. Le problème de ça, c'est que c'est assez inégalitaire parce que quand on regarde justement le niveau de vie des retraités, on voit 80% sont propriétaires, donc ça, il faut vraiment le dire. Mais par contre, pour les 20%, là, vous pouvez avoir vraiment de grandes difficultés quand vous tombez à la retraite avec la baisse de votre revenu si vous n'êtes pas propriétaire. Et le problème, c'est que dans ces 20%, vous avez une majorité souvent de femmes qui ont des revenus qui sont beaucoup plus importants, de familles monoparentales. Donc vous avez en fait une trappe à pauvreté que vous aviez déjà quand vous étiez actif et qui va s'aggraver quand vous tombez à la retraite. Et c'est ça qui est assez compliqué, qu'on n'arrive pas trop à cibler dans les réformes. L'idée, c'est vraiment, parce qu'en effet, souvent les gens ont du patrimoine et donc beaucoup n'ont pas de
problème. Je dis ça parce qu'on a eu le chiffre d'épargne de l'INSEE,
16,6%,
alors qu'on est en période d'inflation, alors qu'on est en période de reprise de la consommation post-Covid. C'est dingue.
C'est dingue. Mais le problème, c'est que derrière, ça c'est le chiffre macro, il faut voir qui épargne et aussi qui a un tel niveau de retraite. Donc ces catégories-là, elles n'ont pas pu épargner et pendant le Covid, et là prennent absolument tout de l'inflation, et en plus on rompt souvent avec des carrières hachées ou des arrêts, et bien des baisses de salaire plus importants et donc une pension qui sera beaucoup plus faible. Donc ça, vraiment cumulé, c'est vrai que le chiffre global comme ça macro paraît intéressant, mais c'est excessivement dur, en tout cas pour ces 20% de retraités, il peut vraiment y avoir un déclassement important. Et quand vous dites au niveau de l'assurance chômage, ils sont trop indemnisés. Bon, déjà, il y a une assurance, il y a une réforme là qui n'a pas échappé.
Quand elle me dit ça, j'ai très peur.
Non, non. Ah oui, c'est le professeur. Non, elle est professeure. Hein.
Je vais avoir une mauvaise
note. Elle est à l'école, c'est le professeur. Vous avez
Et oui, il faut.
Vous n'aurez pas la moyenne.
Il y a déjà une réforme, donc là, ça va dans le sens de moins les indemniser. Mais là encore, quand on regarde l'efficacité de ce genre de politique publique, ça marche très peu. C'est-à-dire que vous allez moins les indemniser. Souvent, il va y avoir une période de précarité très importante qui, à 55 ans, est très, très, très mal vécue et très stigmatisée socialement. Et c'est pas comme ça que vous allez retrouver.
Oui, Wilfried, est-ce que. Juste très rapidement, est-ce que vous êtes frappé comme moi ? Moi, je suis frappé par le taux d'épargne des Français.
Oui, moi, je suis aussi frappé. Pour moi, ça revient à la vieille mentalité, effectivement, paysanne française, qui dit, face à l'incertitude, surtout, il faut garder une poire pour la soif.
Oui, mais donc, face à l'incertitude, mais c'est la même chose quand ça va bien aussi. C'est-à-dire que quand ça va bien, on est au top. Quand ça va mal, on est au top. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est une obsession, quoi.
Quand ça va bien, on est à 14%. Quand ça va mal, on est à 16. Et effectivement, et on raisonne en plus, comme le disait Anne-Sophie. En fait, on raisonne en plus sur la partie moyenne. C'est-à-dire que dire qu'on est en train de monter le taux d'épargne en ce moment de 2 points, c'est en fait quand même un effort, si c'est un effort moyen, qui est considérable.
Ouais, surtout en période où le pouvoir d'achat est sous pression.
Exactement. On pourrait imaginer qu'on a justement cette incitation à consommer beaucoup plus en période d'inflation, alors que finalement, ça accroît les incertitudes et c'est la levée des incertitudes qui peut nous permettre de nous...
Marc, juste un mot. Non. L'épargne retraite en France, c'est 12% du PIB. La moyenne en Europe, c'est 90%.
Allez, on passe tout de suite à la question de la semaine parce qu'on est très en retard. Va-t-on pouvoir compter sur la croissance chinoise en 2023 et est-ce qu'on en a besoin ? On a bien senti cette semaine que ce qui se passait en Chine était suivi de très près par les économistes et les investisseurs. Manifestations, protestations, espoir d'assouplissement de la politique zéro Covid. Est-ce qu'on a besoin de la croissance chinoise en 2023, Anne-Sophie ?
Alors oui, complètement. Et d'ailleurs, le ralentissement qu'on va connaître, c'est aussi dû au ralentissement de la croissance chinoise. Normalement, ils sont à 6-7%. Là, ils vont être juste au-dessus de 4%, même si c'est toujours difficile d'avoir des chiffres. Des vrais chiffres. Ils ont aussi le problème de la crise immobilière. Plus, en effet, on va dire les contestations crise zéro Covid. Donc, c'est vrai que d'avoir ce ralentissement, ça a un impact direct sur le ralentissement de la croissance mondiale et donc forcément pour l'Europe et pour les États-Unis. Donc, on en a besoin, tout à fait. Après, quand on regarde le profil de croissance, de toute façon, on sait très bien que dans les modèles de croissance classiques, c'est tout à fait normal qu'il y ait un ralentissement. Donc, ils vont retourner. on est progressivement vers du...
Oui, c'est ça, 5, des taux 4, normatifs, etc. C'est-à-dire qu'on venait passer du 10 à 8, 6, 6 8, maintenant on va être à 4, 5.
Le problème, c'est qu'ils ont besoin d'avoir à peu près, on va dire, 6% de croissance structurellement pour pouvoir créer assez d'emplois.
Mais alors, attendez, je vous arrête une seconde. On disait 8% il y a 2 ans. Est-ce que c'est vrai, ce chiffre-là? Parce que moi, on m'a répété pendant 10 ans qu'il fallait 8% de croissance en Chine pour créer de l'emploi. Finalement, on est descendu à 5 et ça crée quand même de l'emploi.
Ça crée toujours de l'emploi, mais le problème, c'est le volume. C'est ça le sujet. Vous avez énormément de dichotomie entre les régions en Chine en termes de pauvreté et tout le pacte, c'est que les Chinois puissent venir en ville pour avoir un emploi et devenir membre de la classe moyenne. Si vous avez 4,5% de croissance au lieu de 6, certes, vous allez avoir de la création d'emplois, mais beaucoup moins en termes de volume. Donc, qu'est-ce que vous faites par rapport aux gens qui viennent et qui n'ont pas cet emploi? Et là aussi, pour le pouvoir chinois, c'est aussi un risque de crise sociale qui, à mon sens, beaucoup plus important que juste les crises, on va dire, ponctuelles sur la politique anti-Covid.
Quand on regarde 2023, on se dit globalement, on va avoir une année de croissance molle ou zéro. Est-ce que c'est la Chine qui va faire la différence? C'est-à-dire que s'ils repartent dans le Covid, on est mort?
Ah oui.
Et s'il s'ouvre, finalement, on arrivera à éviter le hard landing?
Non, mais complètement. Enfin, la relance chinoise, elle est de ce point de vue-là. La relance chinoise, la stabilisation du système immobilier chinois est absolument critique. Dans les 10 dernières années, dans la décennie 2010, la Chine, c'était entre 30 et 35% de la croissance mondiale. En 2021, on était à peu près à 10%. Cette année, on va être à 8% de la croissance mondiale origine chinoise.
Donc, on a besoin d'eux.
Donc, on a besoin de ce moteur. Si on n'a pas ce moteur-là, sachant qu'on va être quand même en ralentissement fort aux États-Unis et surtout en Europe, on va quand même avoir beaucoup de difficultés dans des zones qui sont très dépendantes justement du moteur chinois pour sortir de ces difficultés-là et puis commencer effectivement à avoir suffisamment justement de revenus pour tamponner tout ce qu'on doit faire comme transition énergétique et comme justement solidification de notre système énergétique global. Si on n'a pas la relance chinoise, on va avoir véritablement de gros problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que ce qui a expliqué une partie de la relance des marchés, c'est l'espoir d'une relance en Chine.
On va en parler. Troisième rubrique, évidemment, le chiffre de la semaine.
Le chiffre de
la semaine, c'est 10%.
Le printemps, c'est quand?
Ben oui, quand, hein, le printemps. Est-ce que c'est le printemps de l'inflation? Il fait mauvais dehors, mais est-ce que c'est le printemps de l'inflation? On a eu les chiffres de l'inflation en zone euro en novembre, avec une première baisse depuis mi-2021. On est tout de même à 10%, mais c'est nettement mieux que 10,6% en octobre. Wilfried Galland, vous qui pensiez que l'inflation allait rester très élevée, est-ce que vous êtes surpris par ce chiffre?
Je suis totalement en ligne avec mes dires précédents, c'est-à-dire que l'inflation allait non seulement baisser, mais probablement même s'effondrer en 2023.
Donc vous voyez un effondrement?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, vous pouvez nous donner une idée de vos prévisions sur la zone euro en 2023?
Je pense, ça, c'est
quand vous dites s'effondrer, c'est quoi? C'est descendre à 5%, quoi.
Ça veut dire que je pense qu'on va descendre probablement en rythme annuel, on va descendre autour de 3%.
D'accord.
On va descendre très très vite. Pourquoi? Parce que on a des indicateurs avancés d'inflation qui n'arrêtent pas de baisser. Alors c'est surtout en Europe, c'est surtout aux États-Unis. C'est moins vrai en Europe, mais aux États-Unis on va véritablement vers un.
L'assurer.
Oui, on va vers un effondrement du taux d'inflation dans un an.
C'est une bonne nouvelle.
Dans un an, je pense que dans un an on parlera des tendances déflationnistes aux États-Unis plutôt que des tendances inflationnistes. Tout ce qui est indicateur avancé est véritablement en train de baisser très très vite. Alors on a des effets retard. Le problème de l'inflation, c'est que il y a trois grands indicateurs retard dans l'économie. Il y a l'inflation, le taux de croissance, le taux de chômage. Donc on parle énormément de tout ça. Mais ça, c'est ce que reflète l'économie d'avant. Donc effectivement, on peut avoir des effets retard et peut-être que les indicateurs qu'on va regarder d'ici 6 mois seront encore des indicateurs relativement forts. Mais en tendance, on est en train de s'effondrer.
Louis de Montalembert veut parler, il a raison.
Parce qu'on parle sur pas du premier mois.
Mais oui, mais vous êtes la première partie, c'est une partie macro.
Alors on vient en deuxième partie.
En deuxième partie, ils disent rien quand vous.
Si, Wilfried, il dit en deuxième partie.
Quand vous parlez de vos actions, ce qu'il faut acheter et vendre, le cloud, il dit rien, le pauvre Wilfried.
Sur l'inflation.
Allez.
D'accord. Oui, effectivement, en fait, l'inflation, c'est le sujet de 2022, notamment sur les marchés, qui a été absolument effrayant. Et on a quand même le sentiment aujourd'hui qu'on est en train de passer le coin, puisqu'on a eu aux États-Unis un CPI qui était plus bas qu'attendu. En Europe, on a l'air de passer aussi à l'inflexion. On va attendre peut-être quelques statistiques sur les salaires qu'on devrait avoir aujourd'hui, notamment aux États-Unis et sur le chômage. Mais effectivement, je pense qu'il y avait une dimension très transitoire de l'inflation liée au Covid. Et finalement, on a toujours des forces déflationnistes extrêmement importantes dans le monde, que sont la digitalisation, puisque je suis le roi du cloud, et le vieillissement des populations. Maintenant, est-ce que ça va redescendre à 2%? Je ne le crois pas. Enfin, je dit comme tout le monde, c'est peu probable, mais ça a l'air d'être le sujet de plus en plus d'hier plutôt que celui de demain.
2023, on va parler surtout ralentissement, mais plus du tout inflation.
Alors, beaucoup plus ralentissement. Attention, je pense, quand on regarde l'inflation, ce qu'il faut regarder, c'est surtout les composantes. Et pas dans une situation classique où on regarde, en effet, le taux de chômage, on va dire le taux de croissance. Quand on regarde la composante de l'inflation, notamment en Europe, moi, je pense pas qu'il va y avoir un effondrement l'année prochaine. On va plutôt être sur un fort ralentissement, autour de 6%. Donc, voilà, je serais plus mitigée sur la baisse. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les composantes et les sous-jacents, vous restez quand même avec un prix de l'énergie qui est élevé. Certes, le pétrole va baisser puisqu'il est en corrélation avec la croissance. Donc là, il y aura une baisse. Mais par contre, pour le gaz et l'électricité, et même quand vous regardez les prévisions de la Commission, vous restez à des niveaux qui sont quand même élevés avec une demande qui ne va pas faiblir. Parce qu'en fait, la situation qui est paradoxale aujourd'hui, c'est vraiment un peu le
ce là, fameux policy mix. Mondialement ou on
plus
parle
également.
Parce que
là, en Europe.
D'accord.
Aux États-Unis, ça va baisser en effet plus rapidement, mais c'est parce que c'était pas les mêmes sous-jacents. Mais par contre, je pense que ça va pas non plus s'effondrer, parce que là, notamment avec le plan Biden, on va réinjecter beaucoup de liquidités. Et c'est ça, en fait, qui est complètement paradoxal.
Ça, c'est
aujourd'hui.
Votre point depuis longtemps, hein, c'est
oui,
de dire que d'un côté, il y a ce retrait de liquidités par
tout
les banques centrales, c'est ce que vous nous avez dit à l'émission.
Tout à fait.
Et de l'autre côté, en fait,
il y a le stimuli budgétaire par les États. Et ça, c'est complètement assez inédit. En effet, dans les manuels, c'est pas ce qu'on apprend. Hein. Souvent, le budgétaire et le monétaire vont ensemble. Et là, à mon sens, on va rester dans cette situation durablement. On va continuer de stimuler la demande. Et donc, comme on aura cette demande, hein, même on le voit au niveau des entreprises, eh bien, on continuera d'avoir ce filet d'inflation, alors qu'il sera moins important, mais qui viendra avec l'énergie. C'est pour ça qu'on ne sera pas dans un effondrement et qu'on ne reviendra pas aux 2% à court terme.
Donc, Wilfried dit n'importe quoi.
Pas n'importe quoi, mais voilà.
Une analyse. Vous voulez vous défendre?
Chacun son analyse, il n'y a aucun problème.
Éric Lewin, vous avez une idée sur...
Vous voyez, quand vous êtes méprisant, j'ai une idée.
Oui.
J'ai pas d'idée, je suis venu là comme ça.
Mais sur l'inflation.
Non, mais moi, je pense que l'inflation, moi, je suis entre les deux. Je pense qu'il y a deux problématiques sur l'inflation.
Il est très complexé.
Mais bien sûr que je suis très complexé. Attendez, pour moi, c'est mon Graal quand je viens dans cette émission. Il y a la transition énergétique risque d'être inflationniste. C'est-à-dire que je pense pas non plus qu'on va revenir à des taux d'inflation de 2%. Parce que la transition énergétique risque d'être inflationniste. On le sait tous. Et puis, il y a la relocalisation des chaînes de production au niveau local qui fait qu'à mon avis, les produits vont peut-être coûter un petit peu plus cher. Donc, moi, je considère qu'on ne va pas avoir une inflation de 2%, mais peut-être entre 4 et 5%. Maintenant, ce que je veux dire...
4 à 5% en inflation, en rythme de croisière, pour l'Europe ?
Pour les États-Unis, je parlais. Et moi, je ne suis pas très, très inquiet non plus, comme je n'étais pas sur les marchés financiers. On se rend bien compte, notamment aux États-Unis, depuis quelques mois, l'immobilier a tendance à baisser, le prix des véhicules d'occasion a tendance à baisser, le prix des produits alimentaires a tendance à baisser. Donc, on se rend bien compte qu'on va très vite aller vers 5% d'inflation aux États-Unis, ce qui devrait faire plaisir et ce qui devrait nous faire plaisir, Louis et moi, parce que les marchés financiers risquent, comme ça, d'être dans de bonnes dispositions.
Wilfried, il y a vraiment un fossé, hein, quand même, entre les États-Unis et l'Europe.
Complètement. On n'est pas, pour prendre ce que dit Anne-Sophie, les composantes de l'inflation n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, la vitesse de décélération des indicateurs d'inflation aux États-Unis sont évidemment beaucoup plus importantes. En fait, on a à peu près 3 à 4 mois de décalage avec les États-Unis. L'inflation américaine, elle a fait un pic en août. Elle a clairement fait un pic en août et après, depuis, ça n'arrête pas de baisser. Là, on est en train probablement de faire le pic en Europe. La question, c'est effectivement, on a une vraie incertitude sur l'énergie. Là où je vous rejoins totalement, c'est on a une vraie incertitude sur l'énergie. Et donc, si on a un choc énergétique, là, toutes les prévisions vont voler en éclats. Espérons qu'on n'en aura pas.
Et on voit que la France est un peu en décalage. C'est intéressant. Est-ce que c'est parce qu'en fait, avec tous les mesures qu'on a prises, le bouclier tarifaire, est-ce que ça veut dire que nous, on va finalement être un peu comme d'habitude, c'est-à-dire faire mieux, mais on va durer plus longtemps avec une inflation plus forte ?
On va durer longtemps.
Alors, en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que le bouclier tarifaire a très bien marché, puisqu'on l'a pris vraiment en avant.
Il a très bien marché pour les ménages.
Ouais. Tout à fait.
Ouais. Il a coûté cher, mais il a bien marché.
Oui, mais comme quoi qu'il en coûte.
Il coûte une fortune.
Tu dénonces assez les politiques qui coûtent très cher et qui ne sont pas efficaces.
C'est
vrai. On peut saluer quand ça l'est.
C'est vrai.
Donc là, en effet, il y a quand même eu ce résultat. L'autre élément, c'est qu'on est quand même très spécialisé dans les services. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a ce décrochage avec l'Europe du Nord qui est beaucoup plus ouverte et qui s'est pris tous les composants industriels et les hausses dans leur système économique. Donc ça, nous, pour une fois, d'avoir été un désindustrialisé, ça nous a plutôt été favorable. Et l'augmentation dans les services, on le voit juste au niveau des salaires. Et en plus, ce n'est pas des hausses générales.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on va avoir de l'inflation plus longtemps que les autres ?
Alors, ce qui pourrait se passer, c'est qu'en effet, si l'aspect énergétique, on va dire, est solutionné, tant au niveau européen ou que chaque pays trouve une solution. C'est vrai que pour les pays du Nord, hein, qui ont vraiment ce problème d'inflation énergétique, ils risquent d'avoir une baisse qui soit plus importante que nous. Et que nous, on reste avec une inflation graduellement un peu plus élevée, structurellement, parce qu'on a ce problème, on va dire, plus par rapport à notre modèle de croissance, parce qu'on va continuer à avoir de l'inflation dans les salaires, dans les services l'année prochaine.
Wilfried, l'inflation a ralenti la croissance, c'est bon ?
L'inflation ralentit. Oui, en fait, la problématique de l'inflation, c'est une problématique en fait de perturbation des anticipations économiques. Aujourd'hui, on peut imaginer que on n'en est pas là, mais le véritable sujet, c'est arriver effectivement à avoir cet équilibre entre une baisse de l'inflation qui ne corresponde pas à un effondrement de la demande. Si c'est le cas, là, effectivement, je pense
qu'on n'est pas du tout sur un scénario de hard landing pour l'instant.
Pour l'instant, pas du tout.
Pour l'instant, non. Anne-Sophie, non. Pas du tout, nulle part, ni aux États-Unis, ni
pour
en Europe.
Pour l'instant, non.
D'accord, donc c'est plus
d'accord.
Donc, vous êtes d'accord, voilà. Vous, c'est plutôt des lueurs d'espoir
exactement,
pendant ce week-end.
Oui,
on va avoir, vous avez un rayon de soleil.
C'est l'émission des bonnes nouvelles. Voilà.
Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. Dans la deuxième partie d'émission, on va se poser plein de questions que vous posez tous les jours, j'imagine. Hein. Ils vont répondre. Alors là, ça va être beaucoup, les gérants. Louis, vous allez pouvoir parler. Vous allez nous dire. Regardez ce que vous allez nous dire. Vous allez nous dire où vont les marchés avec Eric. Vous allez devoir nous dire quels sont les meilleurs placements pour préparer la retraite. Vous aurez le mot de la semaine, il y aura le top 3 des gérants. Vous pourrez nous conseiller des actions à acheter ou vendre. C'est pas mal, non ?
Incroyable.
Allez, on se retrouve dans quelques minutes.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Je sais pas comment vous les avez trouvés, mais moi je les ai trouvés très très bons en première partie d'émission. Donc je leur ai dit de revenir en deuxième partie d'émission. Évidemment, on a Madame le professeur.
Toujours là.
Anne-Sophie, merci d'être là. Eric, en forme ?
Je vous sens en forme. Hein. Ouais, très bien. Ouais,
les marchés humeur, elle varie vraiment avec les marchés.
Moi je suis binaire, je suis bébête. Quand les marchés vont bien, j'ai un grand sourire. Quand les marchés vont mal, je suis complètement dépité.
Et Louis de Montalembert, là, vous êtes content, c'est la partie des gérants. La première partie, je réexplique le principe de l'émission. La première partie, on parle de macroéconomie. La deuxième partie, on parle d'argent, de gestion, d'action.
De ce qui est important.
Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir vous exprimer. Et Wilfried, bon, vous allez quand même pouvoir vous exprimer parce qu'on a besoin de vos lumières, notamment sur les marchés. Alors, on attaque tout de suite sur la question des marchés. Alors, bon, et de deux, hein. Deux mois de suite, et quel mois ? Franchement, c'est la remontada, un très bon mois de novembre après un excellent mois. Eric est très excité parce qu'il veut que je dise qu'il nous l'avait dit que ça allait remonter.
On était trois sur votre plateau.
Oui. Il avait raison.
Wilfried Galland, le géant vert Alain Pitous et moi, en octobre, les marchés vont remonter fortement parce que l'inflation est derrière nous. Et je me rappelle qu'un dénommé Marc Fiorentino ricanait un peu.
Vous avez décidé que j'étais baissier de nature, mais c'est pas vrai du tout. Allez, jugez par vous-même. En novembre, le CAC 7,5% de hausse, le DAX 8,5%. Le S&P 5,5%, Nasdaq plus 4,4%, l'Eurostock 11%. Sur l'année, on ne baisse plus que de 5-6% sur le CAC. C'est pas dramatique hein, quand on voit ce qu'on a eu. Le DAX est à moins 9%, le S&P, alors c'est moins bon, hein, moins 15%. Le Nasdaq moins 27%. Qui l'eût cru hein. On a quand même tellement parlé du Nasdaq des valeurs technologiques qui ont entraîné la hausse et puis se retrouver avec le plus mauvais indicateur et la plus mauvaise performance, l'Eurostock, moins 7,4%. Alors je me retourne vers vous, puisque vous avez raison, Eric Lewin, est-ce que la remontada va continuer ?
Écoutez, à ce rythme-là, non. Moi, je n'excuse
écoutez,
pas.
Écoutez,
j'excuse pas qu'on ait quelques prises des bénéfices. Ce qu'il faut dire, c'est que les investisseurs étaient polarisés il y a un mois sur ce fameux chiffre d'inflation, notamment aux États-Unis, le fait qu'il soit tombé sous les 7,7%, et qu'en plus après, Jérôme Powell dise que finalement. Et tous ces acolytes, il n'y aura peut-être pas 75 points de hausse de taux lors de la prochaine réunion, mais 50 points de hausse de taux. Ça a permis aux investisseurs, enfin, de revenir sur les actions. Alors, c'est vrai que maintenant, quand on voit ça, la question qui taraude les investisseurs, c'est est-ce qu'on va finir pour le CAC 40 l'année positive ? Très franchement, je suis incapable de dire ça à trois semaines du terme. Il nous reste deux réunions, une de la BCE, une de la Fed. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que j'ai le sentiment quand même que c'est nettement pricé dans les marchés, le fait que les prochaines hausses des taux seront moins importantes. Et maintenant, le vrai juge de paix, ça sera à partir de l'année prochaine. Les résultats des entreprises. Vous avez vu que pour l'instant, on parle de récession, mais que le CAC 40, on prévoit une baisse de simplement 5% des bénéfices des entreprises l'année prochaine. Ça ne me paraît pas suffisant. Il pourrait qu'il y ait quelques révisions de bénéfices. Donc moi, je suis modérément optimiste tant qu'on n'a pas les premières sorties de résultats. Je pense qu'on peut là consolider, repère 300-400 points, peut-être mieux finir l'année. Mais en tout état de cause, si on nous avait dit en début d'année qu'on aurait un krach obligataire, parce que sur le marché obligataire, on a quand même perdu 15%, qu'on aurait
plus que ça, on a 15.
Entre 15 et 20%.
Entre 15 et 20%, voire 25%.
On aurait une guerre. Qu'on aurait une guerre. Ukraine-Russie, que la politique zéro Covid serait toujours là en Chine et qu'on perdrait simplement 5% sur le CAC 40, on aurait signé. Donc finalement, c'est une année qui n'est pas si mauvaise que ça quand on regarde au global.
Oui, de Montalembert. Remontada, ça va continuer ?
En fait, on est en train de sortir d'une phase qu'on a connue en 2022 dans laquelle les marchés ne savaient pas jusqu'où les banques centrales montraient les taux.
C'est ça.
Il y a un moment, on disait le taux terminal aux États-Unis sera de 4 points. Et puis tout d'un coup, on a réalisé que les banques centrales seraient plus sévères, seraient plutôt 5 points. Là, le marché a pris un gros jeton. Et finalement, cet inconnu perpétuel maintenait les marchés sous le boisseau. Aujourd'hui, on pense qu'on est arrivé au bout.
Comme c'est joliment dit.
Oui, les boisseaux.
Ça maintenait les marchés sous le boisseau.
Au bout, probablement au bout de cette histoire-là.
Comme c'est
donc,
délicat.
L'histoire suivante, c'est effectivement, est-ce qu'on parvient au hard landing ? Et donc, la conséquence suivante, c'est effectivement ce que disait Eric, c'est quels pourraient être les résultats des entreprises ? Moi, il y a une chose qui m'a marqué.
Vous répondez donc pas du tout à ma question.
C'est que finalement, en 2022, si, parce que finalement...
Est-ce que la remontada va continuer ? Moi, je suis basique, hein. J'ai pas besoin de...
Mais c'est absurde de vous dire oui ou non.
Oui, mais donc c'est justement ce que je vous demande. Je m'en fous de savoir si c'est absurde. J'ai besoin d'avoir une vraie réponse.
Absurde, réponse intelligente. Donc, je vous donne les conditions pour que ça continue de monter. Pour que ça continue de monter, il faut qu'effectivement, on ait définitivement passé la problématique des taux d'intérêt et deuxièmement, qu'on n'ait pas des signaux macroéconomiques qui soient alarmistes. Et ça, aujourd'hui, personne ne le sait. Comme disaient les économistes...
Qui le savent, les deux.
Qui ont parlé à grande longueur pour la première partie.
Ils ont dit des trucs très intelligents.
On est plutôt.
Ils étaient très rassurants.
Soft landing.
Ouais.
Mais il y a
soft landing, effondrement à ma droite, effondrement de l'inflation, baisse graduelle de l'inflation.
Dans quelques mois, ils seront capables de nous dire un truc exactement inverse.
On l'attaque.
C'est
Wilfried Galland.
Non, mais c'est vrai qu'effectivement, l'important c'est de savoir être agile face à des conditions de marché qui sont sans
bon. Tout à fait. Juste un mot quand même sur les valorisations des marchés. Quand vous regardez le CAC 40 sur 2023, ça vaut 11 fois les bénéfices. Donc c'est pas non plus dramatique. Enfin, même avec une baisse de 5% des bénéfices par action, on est quand même qu'à 11 fois les bénéfices.
Oui, je voudrais
donc le marché n'est pas ultra cher quand même.
Alors les deux là, qu'on leur a donné, on leur a dit c'est leur partie. Là ils veulent plus lâcher.
C'est
leur
moment. Une chose, c'est que ce qui est parfaitement étonnant, effectivement, c'est la solidité des entreprises. Moi, je suis un groupe de d'entreprises européennes qui ont eu un rebond de chiffre d'affaires l'année dernière, plus 21%. Au premier semestre, on a été étonné, c'était plus 25%. Au troisième trimestre, on a plus 28%. Et donc là, il y a une vraie dichotomie entre l'observation économique et un certain nombre d'entreprises cotées. Alors évidemment, les entreprises cotées ne représentent pas l'entièreté de l'économie.
C'est parce que du côté TPE, PME, ça souffre depuis cet été. Franchement, ça souffre.
Sur le terrain, ça se voit dans le cours du CAC Small, hein, qui est à 20%
plus de l'année. Ça souffre.
Mais sur les entreprises moyennes et grandes, il y a énormément. Non, mais vous avez par exemple tout le secteur automobile qui va sortir d'une récession qui dure depuis fin 2017. Donc il y a beaucoup de secteurs qui sont à contre-cycle, l'aéronautique qui redémarre, etc. Donc les entreprises peuvent apporter des réponses
favorables. Wilfried Galland, à vos gérants, comment pensiez-vous, vous qui êtes aussi stratégiste, vous leur dites quoi, il faut foncer, allez-y, si on croit ce que vous dites, hein, moi je veux bien vous croire, que l'inflation va s'effondrer, ça veut dire que les taux vont baisser, si les taux vont baisser, ça veut dire qu'on devrait avoir
un marché positif, boursiers. absolument. C'est effectivement mon scénario.
Les bourrées de call d'ailleurs.
Oui. Non, mais pour ça, effectivement.
Avec un upside de combien alors ?
C'est très difficile à dire, mais en fait, non, mais si on a.
J'aime bien les coincer, mais non, mais si on a,
soleil, il y a non, pas de si, Madame Soleil. Mais, voilà,
mais si,
non.
Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'impact, et c'est parfois un peu contre-intuitif, mais l'impact sur les marchés financiers des taux d'intérêt est, toute proportion gardée, bien supérieur à l'impact des résultats.
Mais oui.
Parce qu'en fait,
ça, les gérants ne parlent toujours de
l'impact des taux,
mais on s'en fout,
l'impact des taux d'intérêt est exponentiel. Voilà.
Je suis d'accord, pour une fois, je suis d'accord avec Wilfried Galland.
Voilà.
On se fout des résultats, tout est une question de liquidité.
Les résultats sont importants, c'est tout.
Et justement, puisqu'on parle de liquidité, la BCE, les taux.
Donc moi je pense par contre qu'on va continuer d'avoir des hausses des taux mais qui seront beaucoup plus graduelles. Donc en Europe oui, donc on va beaucoup voir la situation en Allemagne. Pour l'instant ils sont en récession. Donc ça va vraiment dépendre de savoir si on est à plutôt moins 0,3 qui est plutôt la prévision ou si on est vraiment une récession plus importante. Si elle est plus importante, je pense que la hausse sera quand même assez graduelle pour pas casser aussi toute la croissance en zone euro. Donc il y aura vraiment une corrélation à mon sens entre la situation allemande et on va dire la situation globale de la zone euro. Après il y a l'Allemagne, le Royaume-Uni aussi dans une situation économique très difficile, mais elles sont pas de toute façon dans la zone euro. Voilà, exactement. Par contre, vous avez d'autres pays
ils ont fait leur choix.
comme l'Espagne qui vont plutôt bien, hein, qui ont plus de 3% de croissance cette année, qui l'année prochaine en plus en pas en récession. L'Italie, hein, qu'on l'attendait, on avait excessivement peur. On voit que dès l'année prochaine, ils sont en excédent primaire. Donc, ils reviennent à leur situation d'avant crise. Donc, ça, même au niveau des problématiques de dette, on avait peur que ce soit le pays qui soit attaqué. C'est plutôt assez rassurant. Donc, on a certains facteurs, on va dire, globaux, notamment d'endettement, qu'on pensait très dégradés l'année prochaine, qui ne le sont pas forcément. Et c'est plutôt en effet de l'Allemagne qu'on a les risques.
Elle est super, cette émission-là. Ben, ouais, remontez le moral, je suis arrivé, voilà. C'est mauvais, le scooter, la pluie. Et là, vous êtes revenu optimiste.
Les choses sont bons, il faut le dire, des fois.
Bon, alors, pour des gens qui veulent préparer leur retraite, puisqu'on a parlé de la retraite tout à l'heure, là, je vais me tourner vers les spécialistes avec la question d'argent de la semaine. Là, vous allez pouvoir parler, Louis de Montalembert. Quels sont les bons placements retraite? C'est quoi les bons placements retraite pour préparer sa retraite?
Non, alors, vous allez dire que je radote. Moi, je pense qu'il n'y a que les actions qui sont un bon placement. Et c'est d'autant plus intéressant dans le cadre de la retraite que les gens qui préparent leur retraite mettent de l'argent de manière étalée, de manière régulière. Donc, ça veut dire qu'ils vont en mettre parfois sur des points hauts de marché, parfois sur des points bas de marché. Et donc, les actions restent l'actif qui a les meilleurs rendements sur longue période. Et c'est probablement, justement, le seul contexte dans lequel on peut investir, pour moi, dans les marchés financiers. En fait, on dit toujours qu'il faut investir en actions, en bourse, avec un horizon minimum de 5 ans. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, parce que si votre horizon de 5 ans, c'est...
Personne dit 5 ans, c'est septembre 2008. 10 ans, généralement.
Non, alors, mais dites 10 ans. Et si l'horizon de vos 10 ans, c'est septembre 2008 ouais. Et si l'horizon de vos 10 ans, c'est fin 2018 ou etc. Donc pour moi, il faut investir en bourse l'argent pour lequel on n'a pas d'horizon précisément. Et la retraite, c'est précisément un horizon qui est suffisamment lointain pour investir régulièrement en bourse. Et ça le reste, parce qu'il y a toujours cette logique, on dit « Ah oui, mais plus on est vieux, plus il faut mettre des produits de taux, parce qu'il faut limiter le risque », et je ne suis toujours pas d'accord. En fait, dans le cadre de la retraite, les actions permettent aussi de retirer régulièrement, parfois en haut de marché, parfois en bas de marché, à partir du moment où on retire un quantum qui est raisonnable par rapport à la taille du capital, les actions restent pour moi...
Et quand vous dites les actions... Évidemment, ça peut être à travers l'assurance vie, ça peut être à travers le plan d'épargne retraite en unité de compte. Alors, ça peut être à travers le PEA, mais ça c'est au-dessus de vous. Ça c'est pas votre truc.
Non, mais c'est tous les systèmes qui sont proposés. Voilà.
Ça vous intéresse pas? C'est pour le backup.
Non, vous en occupez. Je voulais.
Ça c'est pour moi. Vous me le laissez là. Le plan d'épargne retraite.
La tendance suivra.
C'est juste le produit principal aujourd'hui pour préparer sa retraite, mais ça vous intéresse pas.
Ah, si ça m'intéresse, Marc. Si
je... Non, mais quand vous dites
non, mais ce
actions,
que je veux dire,
c'est à travers des unités de compte ou en direct, c'est ça?
Non, mais il faut toujours se débrouiller pour que fiscalement, ça soit optimisé. Voilà. Donc, on nous donne des systèmes pour l'optimiser fiscalement, mais ça tombe sous le sens.
Éric Lewin.
Bah, des actions aussi. Hein. Non, mais enfin, j'ai la même réponse. Moi qui suis un adepte du stock picking, je pense que quand vous regardez les performances de L'Oréal, de l'Air Liquide, LVMH sur 40 ans, il n'y a pas photo. Quoi. C'est des fois 15, des fois 20. Donc, moi, je reste sur les actions. Je pense qu'actuellement, si on veut préparer une bonne retraite, il faut acheter des tech. Mais il ne faut pas nacher quoi, dans les actions. Il faut des tech, il faut des défensives, des valeurs de croissance.
Vous pouvez comprendre quand même que. J'entends ce que vous dites les deux, hein. Mais vous pouvez comprendre quand même que quelqu'un qui est en train de préparer sa retraite, qui regarde son portefeuille et qui se prend une tôle de 30%, il se dit, bon, c'est mais quand attendez, même très chaud, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Ouais, je ne dis pas que ce n'est pas une
bonne
décision,
mais je
vous demande...
Sur 5 ans, le CAC 40, c'est plus 25% quand même. Sur 10 ans, c'est plus 40%. Donc c'est sûr que si on raisonne sur 15 jours ou sur un mois ou sur deux mois, ça pose un problème. Sur longue période...
Sans les dividendes.
Voilà. Sur longue période, si tu mets les dividendes, tu as 10 ou 12% de plus. Sur longue période, les actions restent quand même le meilleur placement, à condition de ne pas faire n'importe quoi, à condition de ne pas acheter des actions liées au Bitcoin,
Vous prenez les grands indices, vous prenez toutes les classes d'actifs, il est démontré, il y a de la volatilité, mais il est démontré que sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, les actions rapportent plus. Et dans un environnement inflationniste, le problème des produits de taux, aujourd'hui, on sait se body parce qu'on peut trouver du produit de taux à 3% ou à 4%.
Vous avez vu des gens sait se body, vous? Mais récemment, oui, moi, je vois peu de gens sait se body.
Je vois vous sait se body.
Regarde assez les sbodissements.
Mais avec l'inflation. Avec l'inflation.
Comment on voit dans la rue?
Oui, absolument.
Allez-y sous le boisseau. On va mettre Wilfried Galland sous le boisseau. Allez-y.
En plus, en période d'inflation, les actions sont susceptibles d'apporter plus de rendement là où vous allez avoir votre rendement réel comprimé avec des produits de taux.
Les actions montent, sauf si les taux d'intérêt montent, on l'a vu, si les taux d'intérêt montent.
De manière transitoire, Marc, ça, c'est les mouvements.
Vous avez un mot à dire là-dessus, Wilfried Galland ?
Je pense que le vrai changement dans l'environnement actuel, c'est qu'on a effectivement quand même retrouvé du rendement sur d'autres classes d'actifs. Et donc, avoir un panachage aujourd'hui pour limiter la volatilité et permettre d'avoir...
Mais quels actifs ? Les obligations qui permettent simplement
d'avoir permettre d'avoir du confort dans ces investissements.
Si on a une rechute de l'inflation,
on n'optimise pas totalement le rendement financier, mais en revanche, on optimise peut-être le confort qu'on peut avoir avec, avec le patrimoine qu'on a, parce que justement, on limite la volatilité.
Bravo, Wilfried.
Il est richissime, Wilfried, c'est normal qu'il parle comme ça.
Non, mais moi, je ne suis pas là pour le confort.
Voilà. Quel est le mot de la semaine pour vous, Anne-Sophie ?
C'était Macron l'Américain, hein, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé.
Qu'est-ce qu'il avait l'air content à son dîner, là, et au coin du feu, là, il est en pleine forme.
Pleine forme.
Surtout par rapport à Biden.
Surtout par rapport. Ça, c'est
très méchant.
Pas d'attaque sur l'âge, après avoir parlé des retraites, on stigmatise pas l'âge. Hein.
On ne stigmatise pas.
Voilà. Donc, Macron l'Américain, c'est vrai qu'il y avait l'autre sujet qui était celui du protectionnisme et voilà, du programme américain qui va rentrer en ordre. Moi, c'est vrai que je suis assez négatif.
Qui va rentrer en ordre, non ?
Non, bah, qui va être voté et qui va rentrer en place. Oui, c'est ça. Complètement.
On n'a rien obtenu, quoi.
L'idée, c'était, on y va, il va essayer de pleurer, on aura quelques, bon, là, bien
quelques
sûr.
Miettes.
On savait très bien que ça allait pas être le cas, même si la façade est belle.
Et comme Ben Aouda l'a dit, de toute façon, c'est impossible parce qu'il faudrait repasser par le Congrès. Et personne ne va passer par le Congrès pour faire plaisir à la France.
Donc, c'est sûr que c'est pas la même méthode que Donald Trump. Hein, on fait semblant de plus ouvert, de discuter, de dire oui, peut-être.
On n'écrase pas la main, on tape dans le dos, mais
voilà,
c'est la
exactement.
Même chose.
Mais c'est exactement la même chose. Donc là, c'est vrai que dans les prochaines semaines, ça va être intéressant de voir au niveau européen ce qui se passe. Hein, est-ce qu'on va avoir une réaction? Est-ce qu'il va y avoir des mesures qui vont être prises, notamment pour certains secteurs? On pense bien sûr à l'automobile.
Mais c'est sûr.
Est-ce qu'il va y avoir. Alors, non, on ne peut pas dire que c'est sûr que non.
Si,
il y a quand même une partie des pays
qui est plutôt
allant là-dessus.
On a été naïf avec la Chine.
C'est pas forcément naïf, on en a tout à fait conscience. Après, en effet, on n'a pas de projet politique commun au niveau de l'industrie en Europe et on a des pays qui ne sont pas en effet d'accord. Après, là, c'est quand même une offensive qui est très importante. On a toute une partie de l'Europe qui reste très libérale, les pays du Nord, les Pays-Bas, etc., là, qui vont être de plus en plus impactés dans leur industrie. Donc, attention, hein, on l'a vu quand il y avait le statut d'économie de marché. De la Chine, hein. Dès qu'on avait l'acier et l'aluminium en termes d'emploi, plus de 200 000 qui étaient menacés, tout le monde est redevenu pro-européen. Donc si on a vraiment des menaces sur l'emploi importantes, je pense qu'on peut peut-être redevenir plus pro-européen et peut-être avoir des règlements qui nous défendent.
Le mot de la semaine pour vous, Eric.
OPA. Alors le marché des small caps, c'est une catastrophe. L'indice CAC small a perdu 20% depuis le début de l'année.
C'est l'air OPA.
Mais
ça rapporte à l'argent.
Mais voilà, par exemple, quand je suis en train de parler, plus personne n'écoute, ils ricanent tous.
Non,
en fait, il y a beaucoup d'OPA en ce moment sur le monde des small caps. Il y a eu une OPA sur UFF de la part d'Abeille Assurance cette semaine avec une prime de 55%. Somfy est sorti de la cote. Manutan dans les équipements de bureau est sorti de la cote. Et moi, je pense que 2023 va être une excellente année pour les petites et moyennes capitalisations qui ont beaucoup de retard. Je le disais, sur 5 ans, 25% de hausse sur le CAC, moins 5 sur le CAC Small, et surtout des patrons qui veulent sortir de la boîte, de la bourse, pardon, qui sont moins suivis par les investisseurs. Donc je pense que OPA, thème dominant sur 2023 dans le monde des small caps.
Louis ?
Bah moi, je voulais répondre à Eric avec IPO, parce que si on a des OPA d'un côté, on manque cruellement d'IPO. On s'est esbaudi à nouveau devant le fait que la place de Paris avait dépassé la taille du marché de Londres. Aujourd'hui, on a une attrition et c'est à se demander si la bourse va jouer son rôle de financeur des entreprises. Ça fait un moment qu'on n'a plus d'IPO en France.
Tout à fait.
Wilfried Galland.
Ouais, le nom de la semaine, pour moi, c'est EcoWatt. C'est-à-dire qu'en fait, après tout anti-Covid, on a découvert qu'il fallait tous télécharger EcoWatt. Et on rentre... C'est intéressant parce que cette semaine, on a l'impression qu'on rentre véritablement dans le vif du sujet sur la partie énergétique. Ça devient extrêmement concret. C'est-à-dire qu'on dit, attention, vous allez devoir télécharger une application qui va vous avertir si vous allez subir des baisses de tension, des chutes de courant. Et derrière, c'est la preuve qu'effectivement, on est en train de payer, là, maintenant, 20 ans d'aveuglement sur notre système énergétique. 20 ans où on s'est dit que finalement, en faisant un peu n'importe quoi, ça allait finir par passer. Et puis, on se rend compte qu'il suffit d'un choc sur notre système énergétique, qu'il n'est pas aussi résilient que ça, et qu'on a besoin d'énergie abondante et pas chère pour faire
c'est
de la croissance économique.
C'est dans ces moments-là qu'on regrette la politique énergétique d'Angela Merkel.
C'est dans ces moments-là.
Allez, on passe tout de suite.
On est très émus.
Allez, on passe tout de suite au top 3. Et le miracle continue. Le miracle, c'est qu'on a eu un gérant positif. C'était la semaine dernière, c'est Pierre Chang avec une hausse de 1,5%. Romain Burnand est à moins 2%. Alors, Frédéric Rosier est à moins 2,3%. C'est vrai que la semaine dernière, on a sorti le champagne, on a mis de la musique, on a sorti tous les jingles parce qu'un gérant positif et on peut pas jeter la pierre. Hein, quand on voit l'évolution des indices, c'est quand même très compliqué. Alors, on reprend les portefeuilles. C'est à votre tour de parler, messieurs les gérants. Eric, je vais vous lire votre portefeuille. Okay. Vous me dites ce qu'on garde, vous me dites ce qu'on vend. On a du Atos, on a du Reward Media.
On garde.
On a du Hélice.
On garde.
On a du Fnac Darty.
On garde.
On a du Genoway.
On garde.
L'Oréal.
Ouais.
The Blockchain Group.
Ouais.
Alten.
Ouais.
Twax.
Ouais.
Dassault Systèmes.
Ouais.
Freelance.
Ouais.
Et Stellantis.
Ouais,
on doit dire que les quatre valeurs que vous nous avez conseillées depuis le début de l'année, les quatre dernières, sont en hausse.
Vous êtes sympa, Marc, parce que donner la performance de Blockchain Group depuis que j'ai recommandé, ça fait moins 60 ou moins 70. Vous voyez que je sais me moquer de moi-même. On va recommander Ipsos.
Non, mais je vais vous dire une chose. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Ah ouais, vous dites le top 3, jamais... » Parce que je trouve que c'est déjà très courageux de donner des conseils. Ouais. Et je trouve que les gérants viennent ici, donnent des conseils. Et donc, moi, mon rôle, c'est pas vous exposer, vous prenez des risques. Mon rôle, c'est pas dire « Ah, lui, il est bon, et l'autre... » Non, c'est sympa. Quand il y en a qui surperforment, bah, tant mieux. Quand il y a des belles valeurs, tant mieux. Mais je trouve que c'est déjà très courageux de venir ici, de se mouiller, de dire « Voilà, on
a... » Et d'avouer ses échecs.
Et oui ou pas, mais je veux dire, de toute façon, on a les portefeuilles, mais il n'y a pas de sujet. Voilà. Et qu'est-ce qu'on achète?
Ipsos. Alors, à la base, c'était les études politiques, 1974, Giscard devant Mitterrand, c'est ça. Maintenant, plus du tout. Ils ont 25% de leur chiffre d'affaires dans l'analyse de données, dans la data. C'est un groupe qui se porte extrêmement bien. Croissance de 5 à 6%, rentabilité opérationnelle entre 13 et 14%. Très bonne situation financière. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est que le flottant est très, très atomisé, puisqu'il y a 84% de flottant. Donc la boîte, elle fait à peu près 2,4 milliards de capitalisation. Il pourrait à tout moment y avoir une opération financière. Ça peut intéresser plein de monde.
Là, on revient sur votre thème. Hein.
Ouais, ça peut intéresser du publiciste. Ça peut même intéresser du cap, des gens comme ça. Le titre a pris 30% un an, mais il est encore pas très cher. En deux ratios, valeur d'entreprise rapportée au résultat opérationnel courant, c'est 7 et PER de 10. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on a et la croissance et la rentabilité et l'aspect opéable sur ce dossier.
Louis de Montalembert, je vous lis rapidement votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait. On a du CrowdStrike, du Datadog, du Snowflake. Alors avec vous, j'ai découvert des boîtes que je ne connaissais pas du tout, j'avoue. Hein. Du
Bill.com. Un contre-cycle complet, mais c'est pas grave.
Du Bill.com, du Cloudflare, du HubSpot et, comme Eric, vous avez du Stellantis.
Absolument.
Ce qui était quand même assez surprenant, hein. Quand vous nous l'avez dit, moi j'étais un peu... Mais parce que vous aviez une thèse d'investissement qui était intéressante, vous voulez la répéter très rapidement?
Sur Stellantis, c'est une entreprise qui a des résultats exceptionnels, qui est totalement sous-valorisée, ça vaut un cinquième en termes de multiples par rapport au géant américain, sachant que c'est un géant américain aussi, une fois le résultat d'exploitation, avec parmi les meilleures marges de l'industrie automobile et certainement le meilleur patron de toute l'industrie automobile mondiale qui a redressé Opel en 2 ans.
Carlos Tavares.
Alors que
et puis vous nous disiez aussi qu'on était aussi dans l'édition de logiciels avec la voiture.
Alors
c'était
oui,
plus simplement une coquille. Vous avez oublié, mais vous nous avez dit
ça. Ils pensent de plus en plus
l'automobile
comme un hardware sur lequel on met des softwares.
Vous avez écouté, hein.
Voilà, tout à fait. Ils prévoient de faire 20 milliards de chiffre d'affaires annuel en logiciels récurrents à horizon 2030.
Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui?
Ce que je conseille aujourd'hui est une valeur immarcessible, c'est Believe, qui est une des dernières...
Believe, qui s'est effondrée d'ailleurs.
Absolument, mais qui est une des dernières IPO qu'on a eues sur la Bourse de Paris. En fait, si vous
avez un peu de temps, expliquez-nous ce qu'elle fait.
Vous connaissez tous la digitalisation de la musique à travers les plateformes.
Oui, il faut répondre oui, parce que...
Ça, l'acteur quasiment le proéminent de la digitalisation B2B, c'est Believe.
C'est-à-dire
digitalisation, là, il n'y a plus besoin de faire des oui, c'était juste...
D'accord.
C'est vrai qu'on se moque plus des gérants que des économistes quand même dans cette émission.
Allez-y.
Trop facile.
C'est-à-dire que ce qui permet effectivement à la musique de passer de l'artiste à la plateforme requiert aujourd'hui des plateformes technologiques, de l'analyse de données.
D'accord. Mais ça, c'était vrai. Quand ils sont introduits, ils se sont fait quand même, excusez-moi, défoncer.
Comme toutes les entreprises technologiques depuis qu'ils sont introduits en bourse. Mais aujourd'hui, c'est une croissance de 39%, 37% au dernier trimestre, 40% si on enlève la Russie et l'activité en Russie et en Ukraine. Vous avez un marché de la musique qui devrait tripler entre 2021 et 2030, justement sous le fait de la digitalisation, notamment dans les pays émergents. Ils ont une stratégie qui est très intelligente, qui est d'avoir des plateformes locales et en même temps une
plateforme... J'ai dit que vous aviez du temps, mais vous n'avez pas la journée non plus.
Oui, d'accord. Une plateforme technologique centrale et qui permet aujourd'hui de démocratiser la musique et donc une croissance future formidable.
Vous en avez, Eric ?
Non, moi je préfère Deezer, mais je trouve que Belive c'est une belle boîte. Mais moi, quand une IPO est à ce point loupée, j'ai du mal à revoir les gérants revenir dessus. Quoi. J'ai très peu d'exemples où l'IPO a été complètement loupée et après il y a 30 ou 40% de progression. Souvent, malheureusement, à moins d'une bonne surprise, les actions restent sur le plancher.
Écoutez, vous avez été très bien. J'ai été surpris. Bon, Anne-Sophie, ça m'a pas surpris, mais les trois là. Ouais.
Wilfried est de plus en plus brillant quand même.
Ouais, c'est vrai. Merci de nous avoir suivis. Donc merci à tous nos invités. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une émission dont on est en train de me dire qu'elle sera vraiment exceptionnelle, puisqu'on aura là vraiment des très bons invités. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter, nous re-revoir en replay podcast sur le site BFM Business et sur toutes les plateformes de podcast. Comme vous le savez, ça a cartonné le mois dernier.